C'est la fin de la première heure et début de la seconde avec tout de suite retour au disque du mois Tiger Rose Dangerous Lips. Très hispanisant ce titre de Tiger Rose, extrait de l'album Boogie Blues and Roots, toujours coup de cœur pour Sweet Home Chicago pour ce mois de mars 2021. On va maintenant entrer de plein pied dans la discographie récente de Mathis Hogg, qui est notre invité, que je vais avoir au téléphone juste après. Je vous rappelle que c'est en direct. Si vous avez des questions à lui poser, vous le faites sur le Facebook Sweet Home Chicago. Je me ferai un plaisir de lui poser les questions que vous vous posez vous-même. Voilà. On poursuit donc avec un extrait de ce disque qui s'appelle, de façon très délicate, Kiss My Greed. Hein, on verra tout à l'heure ce que j'entends par là. Mathis Hogg, voici le titre d'accroche, ça s'appelle Jalopy Roll. Mathis Hogg. On Route 66, Jalopy Roll, voilà, c'est ainsi que démarre ce tout nouveau EP de Mathis Hogg qui s'appelle Kiss My Grit. Je suis au téléphone avec Mathis Hogg. Bonjour Mathis.
Et bonjour Marc.
On t'entend pas trop mal, hein?
Ouais, ça va, écoute.
Où es-tu? À quel endroit te trouves-tu actuellement?
Alors, je me trouve en plein milieu de la campagne, entre Nîmes et Avignon, dans le sud-est de la France.
Oui.
Et je me suis mis en haut d'une colline pour pouvoir bien capter.
Pour siffler.
On est à la campagne.
Mais oui, quand on est à la campagne, on ne capte pas partout, effectivement, mais ça fait partie des charmes.
Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Voilà, mais pas dans la voiture.
C'est le Mistral, j'imagine.
Ouais, c'est le Mistral. Ouais.
Bon, petit point météo. Dans le sud, il fait toujours beau, sauf quand. Hein, non, en ce moment, ça va.
Ouais, c'est changeant, mais c'est la vie. Hein, c'est encore le. C'est le début du printemps, là.
C'est le début du printemps aujourd'hui, effectivement. Ouais. Mathis Hogg de Météo France, merci beaucoup. Et donc, si je t'ai interrogé, si je t'ai appelé, c'est pas pour qu'on parle météo, parce qu'ici, en Normandie, il fait toujours beau, tu le sais. Hein,
oui, je sais.
Eh oui, on est à 800...
La Normandie a son charme aussi. Hein.
Évidemment, c'est beaucoup plus vert aussi. Hein.
Ouais.
Mathis, tu es né en Allemagne, tu es arrivé en France lorsque tu avais 10 ans, directement dans le sud de la France, je crois, du côté de l'Ardèche, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ouais. Personne n'est parfait. Hein.
Ah ben, bien sûr. Enfin, quand tu dis personne n'est parfait, c'est dans le fait d'habiter en Ardèche ou d'être né en Allemagne, Mathis?
Non, d'être né en Allemagne, je plaisante.
Alors, né en 1976, arrivé seulement à 10 ans, et tu t'es mis à la musique assez tôt, finalement, je crois, vers les 12-14 ans.
Ouais,
tes premiers pas.
J'ai commencé beaucoup plus tôt, mais tu es arrivé en Ardèche, j'avais 6 ans.
6 ans, d'accord.
Et avant ça, j'habitais donc en Allemagne et j'ai été élevé en partie par ma grand-mère qui était une chanteuse guitariste folk, mais complètement amateur. Elle ne s'est jamais produite en public. Et donc après, j'ai toujours été à la recherche de ce que j'avais vécu avec ma mamie, quoi. Hein. Donc voilà, j'ai acheté une guitare à l'âge de 15 ans. Voilà.
Et la guitare, ça a été le premier et le seul instrument que tu as adopté à cette époque-là?
Quasiment. Ouais. C'était à l'époque, c'était un peu difficile. Bon, c'était bien sûr avant Internet. Et là où l'Ardèche, c'est très peu peuplé. Donc, moi, j'avais pas de voisins à côté de moi qui jouaient de la guitare et tout ça. Donc, j'ai mis un moment un peu à rencontrer des personnes aussi qui pouvaient me montrer quelque chose sur l'instrument.
Mmh.
Et surtout que j'avais acheté une guitare électrique avec un ampli, un jack et un médiator. Et la guitare était complètement injouable. Et donc j'ai passé des mois dessus en essayant de faire bien. Et puis en fait, ça marchait pas, mais c'était pas que de ma faute. Jusqu'un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a initié un peu au finger picking. Donc méthode Marcel Dadi, Michel Aumont et tout ça, enfin pour ceux qui s'en souviennent.
Voilà, ça c'était plutôt comme ça que tu t'es mis. Je me suis dit, tiens, il avait 16 ans en 92, il a écouté forcément l'Unplugged de Nirvana, mais pas du tout en fait.
Oui, j'ai écouté, j'étais assez ouvert musicalement, ouais, je l'ai écouté bien sûr, j'écoutais ça, j'écoutais beaucoup de chansons, Gainsbourg, Yvelin, et le blues finalement, très très tôt, par un peu un hasard. Et je pense que j'ai beaucoup accroché parce que c'était des cassettes que ma mère avait des vieux bluesmen là, des années 30 et tout ça. Et je pense que ça me faisait quelque part ça me rappelait des sonorités et des harmonies aussi que jouait ma grand-mère. Ma grand-mère n'était pas du tout une guitariste de blues.
Ouais.
Mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler le long de cet entretien. C'est-à-dire que les musiques européennes sont arrivées aux États-Unis aussi avec les migrants. Et je pense qu'il y a des choses que j'ai retrouvées, des sonorités, des harmonies, en fait, qui m'ont rappelé un peu ma grand-mère, quoi.
Voilà. Oui, et tu veux parler des influences européennes du blues particulièrement ou des musiques américaines en général?
Des musiques américaines, parce que, à mon sens, je crois que tout a été quand même très, très mélangé.
Oui, oui.
Même si, il faut pas. Enfin, le blues c'est quand même une musique afro-américaine, mais je pense qu'il y a aussi une influence, européenne là-dedans. Il y a une grosse influence des Amérindiens aussi, je pense.
Mmh. Un peu comme je disais tout à l'heure à propos de Del Grace, le blues finalement maintenant une musique mondiale peut-être.
Peut-être. Mmh. Ouais. Ben ça a toujours été les musiques de toute façon. Quelle que soit la musique, les musiques ont voyagé, les musiciens se sont mélangés. Il n'y a pas un style de musique, enfin, il me semble, hein, en tout cas, qui soit pur, quelque part, enfin, qui vienne d'une communauté. Hein.
Voilà, ça c'est... Oui, ça reste accrochable, ça reste gérable, je veux dire, par certains aspects. C'est vrai qu'il y a des gens qui pourraient prétendre à jouer un blues pur ou dont on dirait que, ah oui, là, c'est vraiment, ça, c'est du blues, c'est pas autre chose.
Oui.
Mais finalement, le blues étant lui-même la somme de beaucoup d'influences, surtout africaines, faut pas
oui,
l'enlever. voilà, donc la pureté, qu'est-ce que c'est? Vous avez 4 heures, en fait, hein.
Ben, je sais pas trop, je pense que de toute façon, mais dans l'histoire de la musique, je parle de l'histoire de la musique en général.
Oui.
Moi, j'ai travaillé beaucoup dans les musiques, en fait, folk ou ethniques, dans ma petite carrière de musicien.
Ouais, on en parlera de tes collaborations également, ouais.
Et moi, c'est ce que j'ai appris ou retenu, en tout cas, c'est que, ben, de toute façon, c'est comme nous, on va se rencontrer, on va jouer un morceau. Ça va avoir une influence quelque part sur notre, parfois la manière de jouer, parce qu'on va voir, tiens, toi, ce que tu fais, c'est super. Il y a des choses qui restent. On peut pas tout contrôler non plus, quoi. Et c'est ça qui est chouette avec la musique. C'est-à-dire qu'on peut, en faire des théories pendant des heures, mais c'est vraiment une histoire d'humain. Et moi, c'est encore une fois ce que j'ai appris avec ma grand-mère. Ma grand-mère chantait des chansons en allemand, mais des chansons d'origine russe.
D'accord, d'accord.
Et française, mais de l'époque des Huguenots, par exemple. Donc, et les Huguenots viennent notamment des Cévennes, de la région où j'habite maintenant. Donc c'est vrai que ça mélange, hein, tout ça. Et puis c'est ça qui est chouette. Il faut surtout pas enfermer les musiques.
Oui. On en parle souvent dans l'émission avec les invités par rapport à la labellisation à outrance que certains voudraient qu'on fasse. Surtout en France, hein, je pense que c'est un peu un mal français. Finalement, la musique, c'est une question de rencontre, c'est une question d'influence, c'est une question d'adaptation les uns aux autres. Tu parlais de jouer avec quelqu'un qu'on rencontre pour la première fois et avec qui on va peut-être plus jamais jouer. On apprend d'abord à s'écouter. Et puis ensuite à écouter l'autre, et puis tout se passe naturellement, non? J'ai l'impression.
Bah oui, et puis des fois ça marche bien, mais même des erreurs peuvent rester.
Ouais.
Enfin, des choses qui n'ont pas trop fonctionné, il y a des souvenirs qui peuvent rester, ça peut engendrer aussi des bonnes choses. C'est ça qui, je trouve que c'est très intéressant de. Je pense peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler aussi, c'est que ce dont on souffre aujourd'hui, même avec Internet, tout ça, c'est qu'on ne se rencontre pas beaucoup en ce moment, quoi.
Alors oui, c'est vrai que là, tout de suite, c'est très compliqué. C'est pour ça que le téléphone, même quand on est à 800 ou 1000 kilomètres l'un de l'autre, ça aide bien.
On peut
comme ça survoler un petit peu ta discographie. J'ai l'impression que ça démarre simplement en 2003 avec Matisse en de Mathématiques, mais j'ai quand même le souvenir d'une démo. Enfin, moi, je t'avais vu au Tremplin Blues sur scène, il y a ça de nombreuses années. Je ne sais pas si tu te souviens de ça.
C'était... Très, très bien, oui.
Et à ce moment-là, tu avais proposé déjà une petite démo. Il n'y avait pas encore d'album vraiment de Matisse en de Mathématiques, tel qu'il était ton groupe. Et ensuite, c'est l'album 5 qui est arrivé. 5, je ne sais pas comment tu l'appelais d'ailleurs. 5.
Ouais, 5, 5,
bon,
5.
Il est sorti en 2003, 2004, 2005, je ne sais plus exactement.
En fait, il est sorti, nous, on l'a fait presser. On avait, à l'époque, on a fait ça. J'ai fait ça avec un c'était même pas un ami à l'époque, c'est une connaissance dans sa chambre, vraiment. Il avait bricolé un peu l'électronique et en fait, il a des sonorités un peu électro, cet album. Oui. C'était pas pour moi un choix à la base, c'était plutôt une question de manque de moyens parce qu'on n'avait pas les micros et tout ça pour enregistrer des vraies batteries, on va dire, avec une batterie complète et tout ça. Il n'y avait pas la place. Et bah, du coup, on s'est débrouillé un peu autrement, quoi. Voilà. Et donc, cet album, il a une longue histoire. Il est d'abord sorti en Espagne. Il a vachement bien marché, en fait.
Ouais.
Après, il est sorti en France. Donc, il est sorti entre 2003 et 2005.
Voilà. Bah, tiens, en voici un petit bout, là. Tu vas reconnaître, forcément.
Ouais, sûrement. Cast on me a bucket of cold water before we take the sunny
father. Avec, j'ai envie de dire déjà une belle maturité dans la voix qui se confirme dans tes enregistrements récents, bien entendu. Mais voilà, il y a quand on pense à Matisse Hogg, on pense d'abord à la voix. Moi, c'est la première chose qui me frappe. Et c'est ce dont je me souvenais pour t'avoir vu la première fois à ce fameux tremplin sur scène. T'as une voix, quoi. C'est génial.
Ouais, écoute, je te remercie pour ce compliment. Après, c'est moi, quand j'étais gamin, j'ai toujours voulu être guitariste.
Ouais.
Que j'ai pas réussi finalement. Mais je sais. Disons que on me le dit souvent. C'est vrai que c'est sûrement l'instrument le plus personnel aussi que nous ayons tous.
Hein, mais oui.
Voix. Et je remercie les gens qui trouvent que ma voix est géniale et je les encourage tous. Je pense que tout le monde peut chanter. Voilà. Parce que je crois, pour être très honnête, pas les prédisposition d'une voix très nasale et tout ça, et même ayant pris à une époque un peu des cours de chant, je pense que je suis pas très doué pour être un vrai bon chanteur dans le sens académique des choses, quoi. Et si je peux juste lancer quelque chose, enfin, les gens qui ont envie de chanter, c'est donné, enfin, tout le monde peut le faire, en fait.
Tout le monde peut le faire. Bon, bah, ouais. Si tu peux le faire, tout le monde peut le faire. C'est ça que tu veux dire.
C'est ça, c'est sûr.
Cet album 5, il a été suivi d'une longue absence discographique, à moins que mes sources soient mauvaises. On arrive en 2011 déjà avec Playing My Dues, c'est ça?
Alors, oui, parce qu'après, j'ai fait des. Oui.
T'as un trou dans ton emploi du temps, là, juste 6 ans.
J'ai pas de trou, j'ai tourné pendant des années, pendant toute cette période, j'ai eu énormément de concerts, de demandes, de partout. J'ai enregistré des trucs. J'avais notamment un gros projet qui après est malheureusement tombé à l'eau, mais avec le producteur le réalisateur de Norah Jones à l'époque, hein, et donc on avait commencé à travailler, celui qui avait fait Chris Whitley, celui tout ça, et Cassandra Wilson. Et après, moi, j'ai accompagné des artistes, notamment français, comme Émilie Loiseau, pendant cette période-là.
Oui.
Et après, j'ai.
André Manoukian aussi.
Alors.
Non, c'est autre chose.
Je sais pas pourquoi. Non, j'ai enregistré un morceau pour un de ses disques, mais j'étais juste musicien, en fait.
D'accord. Tu veux dire qu'en l'occurrence, tu étais juste exécutant et non pas participant à la création, à la composition.
Alors, oui, c'était parce qu'en fait, je bossais avec Émilie Loiseau, qui à l'époque avait pas mal la côte et pas mal elle faisait beaucoup de collaborations.
Ouais.
Et moi, elle m'avait choisi justement par rapport. Elle voulait un guitariste chanteur, vraiment, parce que je faisais sur scène des morceaux aussi en duo avec elle. parce que comme je parle l'anglais couramment, je pense qu'elle cherchait quelqu'un qui parle vraiment l'anglais couramment aussi pour elle est franco-anglaise, mm-hmm. pour faire les duos et tout ça sur scène. Et puis du coup, elle m'avait, moi j'avais arrangé des titres pour elle à l'époque. Et Manoukian avait été intéressé par un arrangement, mais c'était un morceau d'Émilie Loiseau qui est l'arrangement de Matisse, quoi, qu'on a enregistré. Voilà.
Il y a d'autres, d'autres personnages comme ça que tu as pu rencontrer au cours de toutes ces années, et pas seulement en tant que musicien, mais également en tant que producteur. Moi, je pense à Purafé, parce que c'est ouais. quelqu'un que j'adore, et elle enregistrait à l'époque chez Dixie Frog, et voilà, j'ai pu la voir par deux fois. C'était quelqu'un de vrai, et puis de pur, hein, c'est un petit peu idiot, hein, ah, oui. son prénom, mais bon, voilà. Tu évoquais les Amérindiens tout à l'heure. Comment s'est passée cette collaboration, Matisse, avec Purafé?
Elle a été, pour être très honnête, non, sans douleur. ce projet est né en fait de l'idée de Jean-Hervé Michel de ouais. Nueva Onda, l'agent français que beaucoup, je pense, connaissent, en Mais tout oui. cas dans le milieu de la musique, qui m'a envoyé en Caroline du Nord pour rencontrer Purafé, pour lui faire enregistrer un album. Donc moi, en tant que réalisateur, le réalisateur, c'est celui qui fait un peu le lien aussi entre la volonté du producteur et de l'artiste, quoi, hein. De revenir encore plus aux sources, quoi. C'est vrai que moi, j'avais découvert Purafé aussi, je l'avais jamais vu en concert avant, mm-hmm. mais je me souviens quand j'ai lu la première fois sur Purafé, c'était dans une pub dans un magazine, peut-être que c'était Blues Mag ou Rock'n'Folk, ou je ne sais plus, en disant c'est du blues amérindien. Donc, très, très curieux, j'allais acheter un disque et je me souviens d'une intro qui avec les chants amérindiens et les percussions. Et puis après, pour moi, en tout cas avec mes oreilles, je dis bien d'européen, ça faisait genre on a l'intro, etc. Et puis après, pour moi, c'était de la musique américaine.
D'accord.
Je n'arrivais pas, moi, en tout cas, avec mes oreilles, ma culture, de retrouver ce côté amérindien. Il me disait, c'est un peu une arnaque, c'est un peu du marketing, quoi, voilà. Quoi, ça, c'est juste ma première impression. J'avais toujours cette frustration de dire, fais-nous quelque chose où on va un peu, enfin, c'est la volonté de Jean-Hervé Michel aussi d'aller un peu plus profond vraiment dans tes racines amérindiennes et faisons un album, amérindien, quoi. Enfin, pas à 100% traditionnel, mais où ça, on entend plus.
Où les racines sont plus présentes, on va dire.
Elles sont plus présentes, écrit des textes et des choses comme ça. Et j'ai bossé pendant des mois avec elle, en Caroline du Nord, et puis après ici en France, par Internet, à ce qu'elle m'envoie des chansons. Je lui dis non, vas-y, va plus profond, cherche plus.
Ouais.
Tout ça, c'est pour ça que... Parce que, si tu veux, elle avait aussi la vision américaine. Est-ce qu'on, aux États-Unis... Nous, on faisait un album quelque part, peut-être un peu moins commercial aussi. Elle comprenait pas trop ce truc-là, donc on a dû s'accorder. Et puis on a enregistré ça dans le village où j'habite encore aujourd'hui. J'avais loué une grande maison.
Est-ce que c'était avec elle seule ou est-ce qu'elle était avec son guitariste de l'époque, Danny Godinez, ou pas du tout?
Elle avait splitté déjà avec Danny.
Ouais.
Bon, moi, je lui avais proposé de proposer des musiciens. Et elle avait proposé Carrie Mourin, que moi j'adorais beaucoup, que j'aimais beaucoup aussi, mais finalement ça n'a pas pu se faire. Et ça a été enregistré avec un violoncelliste américain qui s'appelle Eric Longsworth. Moi au guitare et un peu au banjo. Le batteur percussionniste avec lequel je travaillais beaucoup à l'époque, Stéphane Notari. Et on a enregistré ça tous les quatre, voilà. Et en mettant vraiment l'accent sur sa voix. Voilà,
d'accord.
Jean-Jacques Milto a fait une apparition aussi sur le disque.
Ben oui, Jean-Jacques Milto avec qui tu as collaboré. On parlera tout à l'heure peut-être d'un projet avorté autour des raisins de la colère. Mais je voudrais qu'on revienne sur ton disque, juste le temps d'écouter un titre, si tu veux bien. On a écouté très très rapidement un extrait de 5. Tout à l'heure, on avait dans l'intégralité Jalopy Roll avec lequel tu démarres ce EP. Kiss My Grits. Ta traduction personnelle de Kiss My Grits, c'est quoi, Matisse?
Allez vous faire voir.
Voilà, c'est ce que j'avais lu quelque part, effectivement. On écoute Heartbreaker et puis on se retrouve juste derrière, si tu veux bien.
Ok, oui, bien sûr.
C'est parti.
I was dreaming. bed and another man too. You're heartbreaking. I've cried an ocean of tears. I've bottled my sorrow and threw it from the pier. I saw you swimming in the river. My eyes caught fire. I was burning hot, filled with desire. On a street corner, the rebel yelled. They beat him up and went back to bed.
Mathis Hogg, nouvel extrait de ce EP qui s'intitule tout simplement Kiss My Grits avec Heartbreaker. Mathis Hogg, toujours au téléphone en direct dans le 666. Ça va, Mathis?
Oui.
Toujours là, en direct de la colline. On évoquait cet album et puis on a évoqué pêle-mêle pas mal de participations et de collaborations. On pourrait parler, j'imagine, abondamment d'Émilie Loiseau ou de Purafé, mais le temps presse, il y a d'autres personnes qui nous intéressent. Et puis aussi ce que tu as fait, on a évoqué l'album Playing My Dues en 2011, et puis ensuite il y a eu Distance en 2013, si je ne m'abuse, avec notamment Eric Bibb, travailler avec Eric Bibb, voilà, c'est Eric Bibb, il a l'habitude de faire des tas de collaborations avec des gens du monde entier. Ça t'est arrivé à toi, qu'est-ce que ça t'a apporté, qu'est-ce que ça t'a fait de travailler avec un tel homme?
Oh ben, c'était assez impressionnant, et c'était je remercierai toujours Philippe Langlois qui était qui a été un partenaire exceptionnel dans le milieu là, hein, parce que c'est pas toujours le cas, et là franchement c'était quelqu'un qui aime toujours la musique, mais qui était très proche, enfin moi en tout cas je le ressentais comme ça, très proche des artistes, qui avait une très belle vision, qui savait où il allait, de ce qu'il allait faire. Moi il m'avait dit après Madius, on fera pas un carton avec, c'est peut-être dur à entendre, mais ça va te lancer. Voilà.
Ouais.
Et sur Distance, donc on avait approché Jean-Jacques Milteau comme réalisateur, Et ensuite, c'est moi qui ai demandé, on pourrait pas inviter Eric Bibb. Bon, bah, écoute, on peut lui passer un coup de fil, quoi. Voilà. Et ça s'est fait aussi naturellement. On s'est retrouvé chez une photographe qui faisait pas mal de photos, Patricia, mais je vais écorcher son nom.
Patricia de Gorostarzou, peut-être.
Gorostarzou, voilà. Qui, on était dans sa cuisine, on a commencé. Moi, j'avais fait les arrangements des morceaux. On a enregistré deux titres, un qui n'a pas été sur l'album. Mmh. Donc on a fait en bonus, on avait fait le titre qui a été repris par Nirvana et Led Belly, Why Did You Sleep Last Night, ou Black Girl ou My Girl, en fonction des versions.
Ouais.
Et on a coécrit une chanson qui s'appelle Mississippi John, en hommage à Mississippi John Hurt. Et qui a été enregistré par Big Daddy Wilson quelques années plus tard. Oui, et que moi, je joue régulièrement encore en live parce que j'en garde un tel souvenir de cette rencontre avec Eric.
Ouais, voilà. Tu évoquais, tu parles de Mississippi John Hurt, et puis tout à l'heure dans tes débuts, tu évoquais un petit peu le picking à la Marcel Dadi. Je pense que Marcel Dadi doit beaucoup à Mississippi John Hurt lui-même, non?
Ah oui, je pense. Et puis là, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, je fais un hommage à Doc Watson en ce moment. Doc,
oui, on va évoquer ça.
Un grand fan. Et ainsi que son fils Merle de Mississippi John. Et moi, c'est tous des gens. Moi, j'ai beaucoup travaillé Led Belly. Moi, je me suis vraiment fait la main sur ces Led Belly. Pas Led Belly, pardon. Big Bill Brunzi, pardon.
Big Bill Brunzi, d'accord.
Big Bill Brunzi, Mississippi John et Doc Watson, en fait. Hein. Moi, je suis vraiment un guitariste, en fait, à la base picking, même quand je joue électrique. Alors, j'essaye de faire d'autres choses, mais. Voilà.
Ouais.
C'est un peu plus difficile pour moi. Mais là où je me sens le plus naturel, ben c'est ça, c'est mon école, voilà, c'est le finger picking, ouais.
On va écouter un extrait, tiens, d'un titre, si ça veut bien fonctionner. Ouais. Je sais pas si tu vas reconnaître, si ça veut bien fonctionner.
Faut que j'entende la voix.
Eh oui, toujours. Voilà, bien sûr, Mississippi John Hurt, You Got to Walk, that Lansing Valley, un garçon qui nous a quittés il y a plus de 50 ans et qu'on continue à écouter, dont on continue à parler dans les émissions de radio.
C'était tellement doux, incroyable. Et beau que ce qu'il faisait là, bon, c'est comme certains autres, hein, Skip James et tout ça. Magnifique,
ouais. Skip James, Big Bill Brunzi, voilà, ce sont des artistes qui ont influencé tes débuts, tu l'as dit, et que tu continues à écouter.
Ah, toujours,
ouais.
Ouais. Je pense que c'est vraiment ce qui me touche. Bon, après, c'est très personnel, mais c'est ce qui me touche le plus, quoi. Voilà, c'est.
Et pourquoi? Parce que ça a un rapport avec ta découverte de cette musique, ou tout simplement parce que ce sont eux les créateurs? Ou les deux?
Non, je pense que ça a à voir avec la découverte de cette musique. Et encore une fois, alors que c'est peut-être. C'est encore une fois, ça me fait penser à ma grand-mère.
Ouais.
Qui. C'était pas du tout ma grand-mère, comme je disais, elle était pas du tout une joueuse de blues, hein. Elle savait. D'ailleurs, je pense que ça l'intéressait pas trop. Mais c'est cette manière de jouer la guitare, tout ça, qui me fait vraiment penser à elle. Je sais pas, c'est très particulier. D'ailleurs, j'ai fait des recherches de chansons qu'elle jouait, elle, donc elle chantait en allemand, et que j'ai retrouvées après aux États-Unis.
Mmh.
Qui ont été.
Que tu veux dire, tu les as retrouvés dans une autre version ou,
dans plein d'autres versions, parce que ça reste de la musique, ce qu'on appelle la musique, le sens même de la musique folk, quoi. Hein, c'est-à-dire que c'est avec des auteurs inconnus, c'est de la musique traditionnelle.
Ouais, voilà. c'est la musique des minstrels et puis des troubadours, en fait. Hein.
Des troubadours, voilà, ouais, mais qui sont passés de l'autre côté de l'Atlantique à une époque où je ne sais pas exactement quand, mais voilà, c'est. Et je crois que c'est. Moi, je me considère. Enfin, je suis. Très attaché à ça, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on a. Alors, tous les gens, à chaque fois que je dis ça, les gens me disent: ah oui, mais non, chez les Bretons, il y a de la musique traditionnelle et tout, mais.
Oui, chez les Auvergnats aussi, on pourrait dire, mais
chez
bon.
Chez les Auvergnats, mais. C'est. Par exemple, nous, dans le sud de la France, je rentre un peu dans le côté politique aussi, c'est-à-dire que les gens. Alors, on nous parle en ce moment beaucoup, beaucoup nos traditions, mmh. Mais on n'a plus de. Les gens ne chantent plus pendant les fêtes de village et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'on écoute de la musique internationale et c'est très, très bien, si tu veux, tu vois. Mais le côté des racines, je pense que c'est important. Et c'est ce qui reste peut-être un peu aux Américains.
Les racines, ça peut se perpétuer, pas seulement parce qu'on écoute de la musique, mais surtout parce qu'on en joue et qu'on en chante. Et les Américains sont beaucoup plus musiciens que nous, ça c'est une évidence.
Oui. Et ma compagne est américaine, elle ne vient pas du tout d'une famille de musiciens, mais si tu veux, ils ont un répertoire énorme dans la famille.
J'imagine, c'est vrai que c'est pas très compliqué d'imaginer que quand on joue de la musique, on a été aussi influencé par la famille. C'est pas forcément le cas de tout le monde, bien sûr, mais rappelons quand même qu'en France, on doit avoir à peu près une famille sur 100 dont un arrière-grand-oncle jouait du clairon en 1932 parce qu'il allait à l'armée, peut-être.
Oui.
Ouais. C'est très réducteur, désolé.
En France, il y a des très très belles choses qui se font, attention.
Tu as conservé des contacts, des liens familiaux avec l'Allemagne ou pas du tout, Mathis?
Oui, j'ai mon papa, ma grand-mère vient de décéder.
Ah.
Mais elle avait 95 ans, elle a très bien vécu. J'ai mon papa, j'ai mes oncles et tout ça, moi, j'ai deux frères aussi.
Et donc par là même, ça t'amène à retourner là-bas régulièrement et peut-être aussi à y jouer. Je ne sais pas ce que tu penses du public allemand en particulier. Non.
Alors à jouer, j'ai joué parce qu'à l'époque, à l'âge de 18 ans, je suis reparti en Allemagne pendant quelques années. Donc là, j'ai joué beaucoup.
Oui.
J'ai beaucoup apprécié l'ouverture d'esprit et l'engouement qu'ont eu les Allemands en disant « Tu fais quelque chose, c'est un peu à l'américaine. Hein. Vas-y, fais-le. Voilà, tu peux venir jouer. C'est assez chouette. » Après, moi, j'ai malheureusement, ça c'était un de mes rêves un petit peu, notamment avec quand je faisais mes albums là pour Dixie Frog ou Nueva Onda, c'était d'aller jouer un peu en Allemagne et de commencer une petite carrière même dans les clubs, quelque chose là-bas. J'ai pas réussi en fait. Je peut-être manque de contact et tout ça. Je veux pas trop jouer en Allemagne. Non.
On va revenir sur ton disque, Mathis, et ses cinq titres, Jalopy Roll, donc Heartbreaker, qu'on a écouté, Let's Fall in Love, Fishing with Bill et Doggone Dream, avec différents thèmes qui sont abordés, l'amour, la misère, le voyage, la route, les bagnoles, le recyclage, le laisser aller aussi. Est-ce que tu serais plutôt procrastinateur, Mathis?
C'est bon des moments. Non, je suis assez actif, très... pas mal de choses dans ma vie. Ces dernières années, j'ai quitté le métier. Enfin, je suis plus musicien professionnel depuis 3 ans.
Ah bon?
Non. Avec ma compagne, on vient de nous en séparer, mais on tenait un café de village, le café concert aussi. Et je suis quelqu'un de très 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 actif. Enfin, assez actif, ouais.
Ouais, d'accord.
Mais c'était parce que ces thèmes-là, pendant tous les confinements, déconfinements et tout ça, on s'est retrouvé un peu comme beaucoup à dire qu'est-ce qu'on fait, et puis je me suis un peu réfugié là-dedans. Je pense que j'ai ressenti une certaine angoisse aussi.
Oui.
Personnelle et puis de mon entourage. Donc, je me suis, c'était la première fois parce que je suis pas très très bon en informatique musicale et tout ça. Je me suis dit c'est le moment de s'y mettre un petit peu, d'apprendre. Et j'ai commencé à bricoler, comme je dis, les chansons et à essayer de les faire sonner. Mais c'était juste vraiment pour moi. Et c'est au mois de décembre que ma compagne m'a dit, mais tiens, ils sont bien tes trucs finalement, tu devrais peut-être les sortir. Et voilà, c'est ce que...
Et donc, ma dernière question par rapport à ce disque-là, pourquoi un EP 5 titres, simplement? Pourquoi pas attendre d'en avoir composé d'autres ou d'y mêler 2-3 reprises, pourquoi pas?
Parce que j'avais... ça m'a pris beaucoup de temps, en fait, à faire. Parce que, comme je viens de dire, j'ai fait quasiment tout de A à Z, à part un peu... J'ai un coup de main pour le mixage un ami à moi. Mais c'est-à-dire que j'ai commencé à programmer les batteries, parce que j'avais pas de batteur sous la main à ce moment-là.
D'accord.
J'ai fait les basses avec un clavier, j'ai enregistré les guitares, les micros étaient mal placés, je les refais pour que ce soit quand même audible. Et donc du coup, j'ai passé beaucoup d'énergie à essayer de réaliser celui-là, et c'est pour ça que j'ai pas fait plus. Et puis aussi par rapport à une réflexion générale par rapport à la musique aujourd'hui. Dans le titre aussi, c'était par rapport au confinement, allez tous vous faire voir. Je sais plus où je sais pas trop comment me situer dans cette crise.
Ouais, il y avait plus que du laisser aller. Il y avait de la déception. Il y avait peut-être aussi de la frustration.
Oui, voilà, la frustration, la déception de ne pas savoir, quand on a un commerce aussi, de ne pas savoir comment ça va continuer, si ça va continuer, quand est-ce qu'on va ouvrir, hein, je ne suis pas le seul hein, dans ce cas-là.
C'est pas parce qu'on est les seuls qu'on ne peut pas en parler, hein, déjà.
Ça, non, mais... Et puis le fait de ne pas aller voir ma famille, j'ai un père qui a 83 ans, enfin, voilà, tout ça, quoi, la famille aux États-Unis, enfin, tout ça, c'est un peu compliqué. Et puis... Donc voilà, c'est aller vous savoir, et aussi par rapport à la musique, parce que la musique aujourd'hui, c'est très difficile finalement de financer, même de rentrer dans ses frais en faisant des projets.
Bien sûr.
Et ça, là non plus, je suis pas le seul. C'est-à-dire que moi, ça m'est pas revenu très cher, mon enregistrement, mais aujourd'hui, d'enregistrer avec une équipe de musiciens qu'on va rémunérer éventuellement, moi, ça me semble des fois quasiment impossible, si c'est pas une bande de copains.
C'est le genre de choses, quand on n'est pas au fait de toutes les ficelles comme ça, quand on n'est pas soi-même musicien, on ne sait pas du tout comment ça fonctionne. Non. Et c'est vrai, quand on veut un musicien, quand on dit tiens, celui-là, je voudrais vraiment qu'il joue avec moi, il faut lui donner de l'argent, quoi, parce que c'est le nerf de la guerre, c'est normal.
Oui, parce qu'il a une famille aussi, puis on rentre dans les âges, moi j'ai 45 ans, on n'est plus dans la... Enfin, ça existe aussi, hein, heureusement, mais c'est pas que des potes d'ado, quoi. Hein, voilà, on a tous des vies, des maisons, des voitures, des enfants et tout ça.
Le principe de réalité, voilà.
Et ça devient vraiment difficile. Donc, du coup, je me suis dit, apparemment, le rythme en plus est effréné en ce moment, c'est-à-dire qu'il faut sortir des choses tout le temps, il faut toujours poster des choses sur Internet. Je me suis dit, je vais faire plus court, mais plus souvent.
D'accord. Voilà.
C'est pour ça que là, je sors en ce moment là, le EP, l'hommage à Doc. J'ai encore un album, un EP encore un autre que j'ai enregistré à Memphis il y a 2 ans que j'ai jamais sorti, etc., etc. Donc, est-ce que c'est un bon choix? Je sais pas, mais je voulais dire comme ça, voilà.
Bah, en tout cas, c'est le tien. Il va nous rester un tout petit peu de temps pour écouter un extrait de cet hommage à Doc Watson. Peut-être en une minute, nous expliquer, Mathis, cette collaboration avec Benoît Nogaret. Et puis, pourquoi Doc Watson? Je crois que tu as déjà un petit peu répondu tout à l'heure.
Ben alors, oui. Pourquoi la collaboration avec Benoît? Benoît, c'est un ami de longue date, qui est un excellent, excellent guitariste. Je vous invite vraiment à aller l'écouter. Là, on a posté pas mal de vidéos qu'on enregistre en live. Bon, voilà, sans trucage. Et c'est un gars qui a été pendant longtemps... il était facteur. Il jouait en amateur à côté. Il a arrêté à peu près il y a un an, peu avant le confinement. Mmh. Et il m'a souvent accompagné lors de concerts, tout ça. Mais on n'avait jamais vraiment fait de projet ensemble. Voilà. Et puis, on n'avait jamais enregistré ensemble, donc avec Benoît. Et puis, on s'est dit, mais toutes les chansons folk, enfin, qu'elles soient gospel, blues, country, old time, etc., qu'on joue, mais il y a plein de chansons que le père Doc, il a enregistrées, parce que Doc Watson, il a une discographie quand même assez hallucinante.
Ouais, ouais, ouais.
On s'est dit, on va réécouter un peu du Doc Watson. Et on est vraiment retombé amoureux de ça, de Doc, de la personne aussi. C'est un gars quand même assez incroyable, hein, aveugle, qui a construit une partie de sa maison quand même tout seul, quoi.
Ça j'ignorais, je t'avoue. Sur Doc Watson, tu vas pouvoir me coller sans souci. C'est un artiste que je connais assez peu, mais dont j'apprécie la sonorité, et puis que j'apprécie également quand c'est toi qui le joue, notamment avec Benoît Nogaret. On va écouter un extrait de ce projet. Juste nous dire en tout dernier lieu, Mathis, comment vont pouvoir faire les auditeurs pour se procurer ta musique, que ce soit cet hommage à Doc Watson qui va sortir, ou ton EP Kiss My Grits.
Alors, ils peuvent l'écouter en streaming, hein, sur les plateformes comme Spotify, Deezer et tout ça.
Ouais.
Doc Watson sort le 9 avril, donc pas encore. Si certaines personnes veulent, ils peuvent télécharger sur iTunes, bien sûr.
D'accord.
Et si des personnes veulent nous soutenir ou nous encourager un petit peu. Donc, comme c'est des EP, Kiss My Grits, il y a 5 titres qui font à peu près, je crois que ça fait 16 minutes, et l'hommage à Doc qui fait 20 minutes, il y a 6 titres. Ils peuvent éventuellement, via la page Facebook, on me trouve facilement, ils nous envoient une adresse, leur adresse mail, et je leur donne un lien PayPal, ils peuvent participer à partir de 5 euros. D'accord. Et je leur envoie donc du coup un dossier total avec les MP3, quelques vidéos, des paroles et tout ça. Quoi.
Très bien, voilà. Donc après,
C'est vrai que ça nous permet, sur Kiss My Grits, il y a pas mal de gens qui ont participé et ça m'a permis justement de financer une partie du projet de doc. Voilà. Donc ça aide un peu à continuer, quoi, à payer le studio et tout ça. Voilà.
Très bien. Mathis, je mets le lien de ta page Facebook sur celui du Facebook Suite au Chicago pour que les gens qui écoutent puissent également aller cliquer et puis faire comme tu as dit, se procurer ces morceaux. Merci pour tout ça.
Je voudrais te remercier parce que je trouve que tu fais quand même... On a parlé bien sûr de moi et des musiciens, mais je trouve que tu fais un travail quand même incroyable pour les musiques qu'on aime. Quoi. Et ça, je te tire mon grand chapeau. Voilà.
C'est très gentil. Merci Mathis. Merci beaucoup. Je suis touché.
Voilà.
Merci.
Et très bonne continuation à toi aussi.
Et également, j'espère sur la route du blues en 2021, en tout cas au mieux, hein, forcément.
Oui, on sera on sera là tous. Merci beaucoup Marc.
Merci Mathis, à très bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Allez, on continue avec Lisa Jane, extrait du répertoire de Doc Watson avec Mathis Hogg.
I went to see Miss Liza, she's bending over the top. And the more I ask her to marry me, the harder she gets crushed. Hey, Miss Liza, pretty little gal. Hey, Miss Liza Jane. Hey, Miss Liza, pretty little gal, riding on the train. I wish I had a candy box to put my sweetheart in. I'll take her out and kiss her twice and put her back again. I went up on the mountain and planted me a patch of cane. I made a jug of molasses for the sweet last train. Hey, Miss Liza, pretty little gal. Hey, Miss Liza, train. Hey, Miss Liza, pretty little gal, riding on the train. I went to see Miss Liza. Standing at the door, the shoes and stockings in her hand and her feet all over the floor. The hardest work I ever did was breaking on the train. The easiest work I ever did was hugging Liza Jane. Hey, Miss Liza, pretty little gal. Hey, Miss Liza Jane. Hey, Miss Liza, pretty little gal, riding on the train. What do you think she said? Said she would not marry me if everybody else was dead. I went down the new cut road and Liza down the lane. I threw my hat in the corner of the fence and it's killed for Liza Jane. Hey, Miss Liza, pretty little gal. Hey, Miss Liza Jane. Hey, Miss Liza, pretty little gal, riding on the train.
Lisa Jane, voilà, vous l'avez compris, avec Mathis Hogg et Benoît Nogaret, qui va sortir le 9 avril prochain, un 6 titres consacré à la mémoire de Doc Watson. Voilà, merci encore à Mathis Hogg pour cette interview en direct, sympa et décontracté, j'ai envie de dire aussi très sincère, parce qu'en direct et puis parce que aussi, bien souvent dans Sweet Home Chicago, on a affaire à des jours authentiques, à des gens authentiques, à des musiciens passionnés. On poursuit avec le disque coup de cœur du mois, c'est toujours Boogie Blues and Roots par Tiger Rose.
Mm-hmm. I'd try that one man. Sure gotta go, but I let my good girl get you and I. Ain't no telling you when my little man drew.
C'était Tiger Rose avec Lucy May Blues, extrait de toujours le même Boogie Blues on Rose de Tiger Rose. Voilà, on continuera à écouter encore trois extraits lors de l'émission de la semaine prochaine. Mais en attendant, voici la rubrique vieillerie avec un truc pas si vieux que ça, 1995, une artiste, une très très belle artiste de la Nouvelle-Orléans qui nous a quitté malheureusement, Miss Marva Wright, avec un titre album, un morceau que personnellement à l'époque je connaissais uniquement pour avoir été enregistré par le groupe irlandais U2. Mais qui en fait est beaucoup plus ancien que ça. Vous allez peut-être reconnaître. Tiens, je vous dis pas le titre, écoutez-moi ça. Voilà, je pense que vous vous souveniez davantage de cette version de U2. I still haven't found what I'm looking for. C'était Marva Wright dans le titre album. Voilà, c'était chez AEM en 1995. Et on va se séparer avec la rubrique 50 Years After. 50 ans après, nous étions en 1971. Rock'n'Roll, c'est monsieur Johnny Winter. Extrait du live Johnny Winter and Johnny B. Goode. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. Salut, bye bye.